page arrachée au journal de Michel Léris, lue par Jean-Louis Trintignant. 27 octobre 1922. Michel Léris a 21 ans. Il fait son service militaire à Paris et fréquente assidûment les boîtes et bars américains de Montmartre où il a découvert la musique de jazz. De vagues études de chimie commencées voici 2 ans, mais qu'il n'achèvera pas, n'ont fait que confirmer par réaction son goût pour l'alchimie et l'occultisme. Il vient de dîner chez le peintre André Masson, au 45 rue Blomet, Paris 15e. Rentré chez lui, il commence à écrire son journal sur un cahier d'écolier, d'une écriture serrée, tracée avec une plume fine, peut-être une plume sergent-major. Il ne l'interrompra que le 7 novembre 1989, moins d'1 an avant sa mort. Dans ce journal, Michel Léris n'a pas seulement noté au jour le jour impressions, pensées, images, rêves, détails de la vie quotidienne, titres d'ouvrages, mais également son travail en cours, sa recherche autobiographique, s'employant à décrire des états intérieurs comme s'il s'agissait de choses physiques et palpables. Devenir son propre témoin, établir un inventaire de soi, se faire en somme à la fois sujet et objet d'enquête, tel est bien son projet. En 1940, Léris est à Paris, qu'il ne quittera pas jusqu'à la libération en 1944. Il y fréquente Picasso, Reverdy, Bataille et toujours André Masson.
Mars. Radija Bint Mahamar Chachour, née à Alger, âgée de 23 ans. La statue vivante du cafard. Il s'agit de moi. Le bouic style légionnaire. L'autre endroit complètement désert. Grand élan de tendresse, envie de donner avec excès, d'être aux petits soins, de protéger. Le broutage de tige. L'éjaculation finale, en pollution. Juste sur le mot, 20 francs d'une discussion financière. L'après-midi du lendemain. Le coup offert aux légionnaires qui ne bondent pas. La sieste, le bain, retour le soir et la boucle d'oreille sanglante. Don de la croix, coït réel sans issue avant le lendemain matin. L'appel pour les adieux, au soleil. Tu n'as pas peur du soleil. Chiasse la nuit. Elle vient régulièrement jusqu'aux chiottes me demander « Qu'est-ce que tu fais là ?» Une autre fois, nous pissons ensemble. Je t'avais pris pour un deuxième classe. La constellation d'Orion vue du bateau. Son sexe grand ouvert dans lequel je m'engouffrais. Au bout de très longtemps, tout au fond d'elle, il me semble percevoir quelques contractions qui prouveraient qu'elle n'est pas insensible. Mais peu après, je débande. Le coït ne sera repris que le lendemain matin, vers 5 heures. Pour mon éjaculation. La chanson arabe de Radija, traversant la cour pour aller chercher les bouteilles de bière qu'elle a réussi à me faire payer. L'on dirait un thème de guerre, un chant de victoire. Cela me fait penser à certains chants orgueilleux du Tsar. La Néréide de la mer Rouge, ou plutôt l'ange de la mort, c'est-à-dire Judith aux douceurs de Lucrèce. Ce matin même, passant vers 11 heures à mon centre de regroupement des isolés d'artillerie, trouvai une lettre de paix, dans laquelle elle essaie de m'expliquer ce qu'il y a, selon elle, de mystérieux et de magique entre nous. 14 juillet. Ce qui me lie peut-être le plus à Z, nécessité, besoin absolu que j'éprouve, d'avoir une sorte de témoin de ma vie. Il est entendu une fois pour toutes qu'elle seule peut être ce témoin ou spectateur, grâce à qui ma personne même a sa réalité. Je ne conçois pas d'autre public. C'est à cause de ce caractère de témoin qu'elle a que je redoute à tel point son jugement. Un peu peut-être comme un acteur ou un auteur de théâtre redoute la critique. Je sais maintenant, et c'est à peu près entendu entre nous, que ce cahier lui est destiné, comme une sorte de testament. Que va-t-il en résulter quant à sa rédaction? 15 juillet. Un dessin de maçon que je possède, dessin fait d'après moi, à l'époque de la rue Blomet, sans intention de portrait, mais que j'ai toujours gardé comme mon vrai portrait. La tête appuyée dans l'une de ses mains, un homme, tenant de l'autre main un cornet, a jeté sur une table des dés qu'il semble ne pas regarder. L'on dirait même qu'il détourne les yeux, à moins que sa main ne les voile. L'on pourrait croire encore que ce que disent les dés le fait pleurer. 7 août. Ce que j'aime dans certaines formes de la vie militaire. Abolition des distinctions de classe et d'âge et presque d'espèce. Ainsi, durant le voyage de ces jours derniers entre Buzet-sur-Bèze, lieu où j'ai été démobilisé, et Limoges, lieu où nous nous sommes séparés, nous étions 4 hommes et un chien. Des 4 hommes, l'un était paysan, les 3 autres des citadins. Le plus jeune avait 19 ans et l'aîné 41. Militairement, l'un était aviateur, les 2 autres fantassins et moi. Des ouvriers d'artillerie. Sorte de vie picaresque que j'aurais menée pendant la guerre, chose surtout perçue durant les déplacements. Voyage de Beni Ounif à Oran au cours du retour d'Afrique. Convoiement de munitions entre la Ferté-Haute-Rive et les Landes. Voyage de démobilisation entre la Guppie et Saint-Léonard. Quelques-uns des détails qui m'ont fait penser à cela. Lavage au bain mort en Afrique du Nord. Mon existence de convoyeur, comparable à ce que peut être le vagabondage de voies ferrées aux États-Unis. Exode des travailleurs espagnols au moment de l'armistice. Couché ça et là au moment de la démobilisation. Retour à toutes les idées poétiques relatives aux émigrants, aux bohémiens. Prestige de ce qui fait Heimatlos ou l'impen prolétariat. Ma vie, comme une voie de chemin de fer sur laquelle roulent des trains de vitesse et de puissance différentes, chargés de voyageurs et de marchandises divers. Vérité positive de l'expression « le voyage de la vie ». Vendredi 13 septembre. Peut-être pris pour la date symbolique de ma séparation avec P.
1941.
27 janvier. Vague tentative de travail, au maigre résultat. Ayant l'esprit comme engourdi, feutré, incapable de percer la brume du temps présent, d'en faire un socle ou un ressort, autre chose qu'un tampon cotonneux d'étouffement. Tenter de formuler tantôt une équation sentimentale qui exprime ce que j'éprouve vis-à-vis de Z depuis quelque temps. Elle serait celle qui se définit comme étant telle que je n'existe guère que dans la mesure où par elle je suis perçu. La question juive. Étant donné qu'une société ne saurait exister sans ses parias et ses déshérités, conditions matérielles et morales du bonheur relatif des autres, l'on décide que ce sont des individus appartenant à telle race définie arbitrairement qui seront ces parias et ces déshérités, sans possibilité de rachat. Dans les sociétés démocratiques, à celui qui a le malheur de naître parmi les pauvres et laisser la faculté, au moins théorique, de courir sa chance. En société raciste, le hasard d'une certaine naissance détermine tout pour jamais, sans rémission. 29 janvier. Relu quelques passages de l'Afrique fantôme, consulté parce que je voulais voir ce que j'y disais d'Argodate, ville érythréenne dont la radio britannique annonce qu'elle a été évacuée par les Italiens. Mon impression de cette lecture, pas une ligne dont le ton ne soit le plus susceptible de choquer des gens genre griots les consorts. Maintenant, plus au courant des us et coutumes de ce milieu, je ne pourrais plus m'exprimer avec tant de naïveté. et c'est dommage. 30 janvier. Rêve de cette nuit. Grand accès de désespoir. Fonte en larmes. Un peu comédienne, mais sincère. Comme si elle représentait la seule issue à laquelle je me force pour arriver, avec idée d'une vie décidément perdue, d'une vie qui, comme toute vie, quelle qu'elle soit, ne peut être que tout à fait dépourvue de sens et tout à fait perdue à la suite d'une querelle avec Zette. Je possédais une épée de cristal, semblable à une épée de verre, objet du XVIIIe siècle, que Desnos avait chez lui il y a quelques années, l'ayant acheté chez un brocanteur, et que j'avais vu chez lui à cette époque, dans la réalité. Dans un mouvement de colère, je lançai cette épée, à laquelle je tenais beaucoup, sur le sol, en vue de la briser. Elle ne se cassait pas. Pour me punir de ce mouvement de colère, sachant qu'au fond je n'avais jamais eu envie de briser l'épée et que mon geste était pure comédie, Zette s'emparait de l'arme de cristal et voulait à son tour la briser sur le sol. D'où querelle et mon accès de désespoir. L'épée de cristal, cela représente tous les plaisirs que je gâche, les élans que j'étouffe, par pur caprice d'enfant boudeur. Entendu à la radio, le discours du chancelier du Reich. Comme les autres fois que je l'ai entendu, je suis impressionné par ce ton de frénésie prophétique. Frappé par la crainte, comme devant un cataclysme naturel contre lequel il n'y a rien à faire. 31 janvier. Vue Pélorson au Napolitain. Refuser ce que déjà j'étais décidé à faire, la collaboration qu'il me demandait pour une revue littéraire qu'il doit diriger et qui se présente comme devant plus ou moins être à l'origine d'une association elle-même plus ou moins patronnée par le ministère de la Jeunesse du gouvernement de Vichy. Mes raisons, je veux les fixer ici parce que l'obligation dans laquelle je me trouvais de nettement les formuler a été pour moi l'occasion d'y voir bien clair. À aucun moment de ma vie littéraire, il ne m'est venu à l'idée de m'officialiser. Ce n'est donc pas maintenant le moment de commencer. La signification essentielle que j'attache à mon activité poétique est celle du refus. Il n'est donc pas question pour moi de publier, dans des conditions telles que cela se présenterait pour moi, implicitement, une acceptation de ce qui se passe actuellement dans le domaine politique. Ce qui me paraît surtout, c'est ce sens de refus, ce caractère profondément négatif que me semble avoir toute mon activité écrite, ou du moins ce que je considère comme ses produits les plus valables. L'Afrique fantôme est née de mon refus d'écrire un livre ressortissant au genre littérature de voyage. Glossaire J. Serre-Méglose repose au moins quant à l'idée originelle, car je ne puis me dissimuler que très rapidement, je me suis laissé prendre au jeu et ai écrit cela comme j'aurais écrit des poèmes, sur le désir que j'éprouvais de disséquer, presque de détruire ce qui formait le noyau de mon vocabulaire poétique. Abanico para los toros répond à une gageure qui est elle aussi une manière de refus. Construire des poèmes dont chacun se reflèterait à une réalité précise, susceptible d'être scientifiquement, éruditement décrite. Quant à l'âge d'homme, il est en somme la négation d'un roman, et je me suis proposé avant tout d'y condenser, presque à l'état pur, un ensemble d'images et de faits que je me refusais à exploiter, en laissant travailler dessus mon imagination. Côté noble et côté faible d'un pareil refus. Attitude digne, je crois, mais peu virile, du fait qu'elle n'est que pur repli, à la fois ma fierté et mon talon d'Achille. 16 février. Dimanche, il y a 15 jours, déjeuner chez Bataille. Et Zette et moi, nous lui disions, en termes des plus mesurés, ce que nous pensions de sa collaboration à une collection que dirige Pélorson. Le principal argument qu'allègue Bataille est celui-ci, ou se réduit à ceci. Ce que j'ai toujours compté pour l'essentiel relève de ma vie intérieure. je n'ai pas à me soucier de ce qui est extérieur à moi, sikh. Dans le temps présent, il n'y a pas à se solidariser avec ceux qui sont atteints. Dimanche dernier, reçu lettre de bataille qui, m'écrivant pour me donner des références bibliographiques qu'il devait m'envoyer et aussi adressant à Z un chèque comme à compte sur une petite dette, en profite pour le prendre de haut à propos de notre conversation du dimanche précédent. On ne se sauve pas par la passivité. Ce qu'il appelle mon inertie et, plus aimablement, ma pureté élégante ne rime à rien. Je jette la lettre au panier, sans intention d'y répondre. Le mardi, coup de Trafalgar au Trocadéro. Descente de la police allemande, arrestation de tous mes camarades du musée. La plupart, il est vrai, relâchés à la fin de la soirée. Toute la semaine s'est passée dans l'ambiance de cet événement. De plus en plus, et quoi qu'en disent les batailles et d'autres partisans d'une mystique, poétique ou non, mais à coup sûr de tout repos, je suis décidé à me raidir, même si ce raidissement devait, comme me le disait Jacques Audiberti rencontré vendredi aux éditions de la NRF, entraîner une sclérose intellectuelle. Plutôt l'inertie, le silence, l'ensevelissement dans une négativité complète que parler, agir dans des conditions telles que cela représenterait de ma part un reniement de nature à les dévaloriser, à priver de toute vertu les quelques témoignages que j'ai pu donner de moi précédemment. Il y a plusieurs semaines déjà que je réfléchis sur cette vraie maladie des gens de lettres qui ne conçoivent pas la possibilité de se taire et pour qui ne plus publier équivaut à une espèce d'anéantissement. À la suite de la conversation avec Audiberti, que j'aimais bien autrefois mais qui m'a paru l'autre jour affreusement verbeux et bavard, réfléchis aussi à l'escroquerie plus ou moins inconsciente qui consiste à identifier l'activité poétique avec la pensée, à faire de la poésie le domaine par excellence de l'esprit, a déclaré qu'il est d'une importance cruciale de continuer d'écrire des poèmes parce qu'il faut bien que l'esprit continue. L'esprit existe et continue et continuera toujours tant que nous ne serons pas devenus des fourmis en se passant de vos élucubrations et de vos poèmes, mes petits amis. Tout ceci écrit beaucoup plus contre Bataille que contre Audiberti, qui lui est essentiellement un naïf. Et ne s'est jamais donné pour ce qu'il n'était pas. À quoi bon cette petite sortie bien ridicule, et qui relève de ce genre de laisser-aller, la chose qui, de toutes celles auxquelles je suis sujet, est peut-être celle qui me fait le plus honte. Vu vendredi dernier à la NRF, Roland de Renéville. Il a trouvé son personnage et le joue admirablement. Le rôle du lâche qu'il remplit à la perfection. L'on sent que tout son effort a consisté à lui donner un style. Ce qu'il dit de sa peur, de sa plus que peur, il le dit avec un extraordinaire brio, et c'est d'un comique effectivement étourdissant. Penser que certains êtres ont atteint ce degré de corruption morale, qu'il leur suffise de styliser leur bassesse, leur vilainie, pour oser se présenter devant les autres avec un front serein, mieux que cela, avec l'air de vous dire « c'est nous qui sommes les malins ». Dîner avec Denise et Pierre Naville. Je ne connaissais autant dire pas Naville, vu seulement à l'époque des débuts du surréalisme et avec qui je n'avais guère sympathisé à cause de ce que je lui trouvais de trop puritain. Parler des questions générales du temps présent. Ennuyé d'expliquer ma position, mais n'ai pu le faire que d'une manière fort vaseuse. La conversation a mieux roulé dès que nous nous sommes mis à parler de choses concrètes. Livres lus, choses vues, souvenirs de vie militaire, etc. La communion par le concret. 6 juin. Certains s'étonnent, s'indignent, et j'ai été du nombre, de l'attitude des Français dans la défaite. Abandon complet, soumission absolue au vainqueur, réaction policière, toutes les formes de la lâcheté. L'on a cette idée mystique qu'après la catastrophe militaire, après être descendu au plus bas, il doit nécessairement s'opérer un redressement. L'on va jusqu'à s'imaginer que la défaite pourrait être une salutaire leçon. L'on ne voit pas la vérité qui est beaucoup plus simple. Cette débâcle militaire, et là tous sont d'accord, fut avant tout le signe d'une profonde décomposition. Il n'y a nulle raison pour que cette décomposition ne persiste pas postérieurement à la défaite. Pourquoi une pareille défaite, qui n'a pas été un accident mais un signe, et à proprement parler une sanction, serait-elle le point de départ d'une recomposition ? Il est naturel que l'état de pourriture qui nous a amenés là ne soit pas diminué mais accru, du fait que maintenant nous en sommes là. Les Français n'ont rien fait. Quand ils avaient quelques armes, ils feront moins encore maintenant qu'ils n'ont plus rien. Vie à l'étouffée, à l'étuvée, comme sous un boisseau ou derrière un masque. Impression de brouillard pénétrant jusqu'à la liquéfaction, comme une pluie ténue mais persistante et dont le ciel ne se débarrassera jamais. Le temps coule. Depuis quelques jours, envie sincère de me reprendre, de ne plus me laisser aller à ce croupissement, de ne plus être à ce point annihilé par les événements qui, au fond, ne devraient pas entamer la vie dans ce qui lui est essentiel. Embourbé plus ou moins dans cet écrit que j'appelle bifure, qui ne parvient pas à s'animer, à sortir du jeu strictement intellectuel. Chose écrite phrase par phrase et presque mot pour mot, sans qu'il y ait jamais jaillissement. 1er octobre. Beaucoup mieux physiquement depuis la mise au vert, mais repris peu à peu par l'atmosphère parisienne étouffante. Cette nuit, rêve confus et désagréable touchant à l'occupation. Depuis 2 ou 3 nuits, rêverie funèbre dans le demi-sommeil. Je songe à ma mort future, à celle de Z. Grande tristesse. Impression que tout ce qui faisait notre vie est à jamais fini. 12 octobre. Avant-hier soir, le baladin du monde occidental au Mathurin. Mal joué par Marcel Héran, trop efféminé, et Tania Balachova, trop agitée et criarde, mais convenablement mise en scène, de sorte que le texte tient le coup, ce qui est l'essentiel. Thème mythique du combat du père et du fils, ce qui ne va pas sans une secrète et inconsciente complicité, ainsi qu'il apparaît à la fin. Le baladin n'est ni tout à fait un capon, ni tout à fait un menteur. Il est quelqu'un qui brode. Exactement le poète. Beau parleur, fanfaron. Sa période de chance extraordinaire, tant qu'on le croit parricide, c'est-à-dire tant que, vis-à-vis de son entourage social, il est celui qui a violé la loi, sa chute verticale dès que la vérité est découverte. Le père intuable, véritable père éternel, au sens littéral du terme, éternel revenant.
C'était Page arrachée au journal de Michel Léris, choisi et présenté par Jean Jamon, lu par Jean-Louis Trintignant et enregistré au Festival d'Avignon en 1992 par Monique Burguière et François Connac, dans une réalisation de Claude Guerre. Remise en onde Sébastien Labarre et Claude Guerre, assistant à la réalisation Félix Levacher avec la voix de Julie Pouillon. Le journal de Michel Léris est publié aux éditions Gallimard.